Proposons la lecture du chapitre 2 de la deuxième épître à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, et les choses que tu as entendues de moi, devant plusieurs témoins, comme elle est à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu selon les lois. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David selon mon évangile, dans lequel j'endure des souffrances jusqu'à être lié de chaînes comme un malfaiteur. Toutefois, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans aucun profit, et pour la subversion des auditeurs. Étudie-toi te présenter, approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Mais évite les discours vains et profanes, car ceux qui s'y livrent iront plus avant dans l'impiété, et leur parole rongera comme une gangrène, desquels sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de quelques-uns. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les questions folles et insensées, sachant qu'elles engendrent des contestations. Et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, et s'ils ne se réveilleront pas du piège du diable par qui ils ont été pris pour faire sa volonté. Plus que jamais, il est important que nous nous pénétrions dans nos cœurs de l'enseignement qui est donné dans cette deuxième épître à Timothée. Alors que nous arrivons au terme du pèlerinage douloureux de l'Église sur la terre, du côté de l'homme, c'est la faillite, c'est la ruine. Quant à ce qui a été confié à sa responsabilité, cela a été souvent rappelé par les frères qui nous ont précédés et que beaucoup d'entre nous ont pu connaître et dont ils ont apprécié le ministère. On peut dire que nous avons été clairement avertis sur ce point. Il est essentiel et loin d'être découragé par le fait que la ruine s'étale de toutes parts, du fait que la chrétienté a été infidèle à la révélation initiale de la pensée de Dieu concernant l'Assemblée de Dieu. Et de plus, le témoignage qui a été confié à notre responsabilité, nous les héritiers de Philadelphie, eh bien, nous savons ce que nous en avons fait. Pourquoi cela? Eh bien, parce que nous n'avons pas utilisé, avec une foi vivante, hardie, les ressources permanentes qui sont toujours à la disposition de la foi pour le peuple de Dieu, et plus particulièrement pour ce peuple qui est extrêmement privilégié, qui fait partie de l'Assemblée de Dieu. Car Timothée lui-même avait été averti par l'apôtre, nous le savons, dans la première épître, alors que tous les ministères prophétiques avaient été mis en évidence par les différentes épîtres des apôtres, eh bien, l'apôtre lui dit qu'il lui écrivait cette première épître pour qu'il sache comment il faut se conduire dans l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Donc Dieu nous a tout révélé quant à ce qui concerne les ressources dont le croyant, pendant la période privilégiée de l'Église, pouvait s'emparer. Et alors nous savons que nos mains ont été lâches et nous n'avons pas retenu ce bon dépôt. Toutefois, il y a toujours un chemin pour le fidèle, pour celui qui a à cœur la fidélité dans un temps de ruine. Et nous pouvons nous approprier par la foi, et cela plutôt d'une manière individuelle, ce que sont ces ressources permanentes de la foi, pour faire face dans une mesure aux responsabilités qui sont les nôtres. Au sein de la chrétienté, où nous sommes toujours placés avec des responsabilités particulières. Ceux qui nous ont précédés sont sortis du camp religieux chrétien, des systèmes religieux, avec une énergie qui ne peut que provoquer notre admiration. Ils sont sortis à l'appel du Seigneur, ils ont répondu à cette merveilleuse promesse qui contient une septuple bénédiction de Matthieu 18-20 que nous rappelons fréquemment dans nos réunions, sans peut-être toujours réaliser l'ensemble de cette bénédiction. Toutefois, la promesse du Seigneur demeure et la foi peut toujours s'en emparer. D'autre part, le deuxième point sur lequel ces hommes de Dieu se sont arrêtés est l'un des passages clés de notre lecture qui va du verset 19 jusqu'au verset 22. Nous avons là des versets qui ont imprégné ces conducteurs du siècle dernier et qui les ont engagés à s'avancer par la foi pour réaliser les privilèges de ce rassemblement autour et au nom du Seigneur Jésus. Et ils ont joui de la bénédiction infiniment précieuse de la présence du Seigneur au milieu d'eux. Et quand le Seigneur est là, au milieu des siens, ne serait-il que deux ou trois, ils ne peuvent que se réjouir. C'est ce que nous voyons dans la première réunion après la résurrection du Seigneur. Il n'y avait que les disciples qui l'ont vu. Il vint et se tint là au milieu d'eux. Et le Seigneur leur fait contempler les marques de son amour, dont les traces restaient en son corps et resteront pendant l'éternité comme les preuves irréfutables de son amour. Cet amour qui l'a poussé à se livrer lui-même en Golgotha pour y accomplir cette œuvre de la rédemption par laquelle, par la foi en laquelle, nous obtenons un plein salut et une pleine délivrance. Donc, nous n'avons pas gardé comme ensemble responsable le bon dépôt qui nous a été confié, et nous ne pouvions le garder que par l'Esprit Saint qui habite en nous. Voilà une des ressources extrêmement précieuses, l'Esprit Saint habitant en nous. Nous ne pouvons retrouver, nous ne pouvons garder ce que Dieu veut nous confier quant au précieux dépôt des vérités relatives au rassemblement des siens autour du Seigneur, quant aux vérités ecclésiastiques. Nous ne pouvons garder un tel dépôt que par l'action de l'Esprit. Et là où l'Esprit est libre d'agir, il y a cette heureuse liberté et nous pouvons connaître encore, si la grâce nous en est accordée, des moments bénis dans la présence du Seigneur. Disons encore à propos du Saint-Esprit qu'il est caractérisé dans ce chapitre premier de cette deuxième épître par trois aspects fondamentaux extrêmement importants. C'est un esprit d'amour, de puissance et de conseil ou de sobre bon sens. Voilà ce que, dans des temps de ruine, Dieu nous rappelle concernant le Saint-Esprit. Et nous sommes reportés, comme cela a été souvent rappelé, à ces chapitres essentiels de la première épître aux Corinthiens, où l'Esprit de Dieu nous entretient de ce que sont les statuts de l'Assemblée de Dieu, de ce qu'est l'Assemblée de Dieu dans son fonctionnement, dans l'exercice de ses dons. Eh bien, nous avons dans le chapitre 12 l'Esprit de puissance qui dispense les dons permanents dont le corps a besoin. Nous avons au chapitre 13 l'amour qui est la source de la manifestation des dons, et dans le chapitre 14 l'esprit de sagesse, l'esprit de sobre bon sens selon lequel les dons s'exercent pour l'édification des saints. C'est le mot clé de ce chapitre 14, l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. C'est-à-dire que, au contact de la parole, dans l'exercice d'un ministère et d'un don, notre âme doit recevoir du bien. Il y a quelque chose qui se construit dans notre âme de la part de Dieu. Cette œuvre que Dieu poursuit en chacun de nos cœurs par son esprit, esprit de sagesse et de sobre bon sens, et ainsi nous recevons du bien, nous sommes renouvelés dans notre âme, nous sommes édifiés. Sans doute le ministère prophétique ajoute aussi à l'édification, l'exhortation dont nous avons besoin tant que nous serons sur la terre, puisque la chair est en nous jusqu'à notre dernier souffle dans ce monde, et d'où la nécessité des exhortations, et elles sont toujours présentées dans les épîtres après que l'apôtre ou les serviteurs de Dieu nous aient parlé de la saine doctrine, du saint enseignement. Dieu attend de chacun de nous que nous puissions l'honorer dans notre vie pratique après avoir écouté l'enseignement relatif à la saine doctrine. Nous avons aussi une autre ressource rappelée plusieurs fois dans ces passages, ce sont les saines paroles. C'est toute écriture. Quelle est la place que l'écriture tient dans notre vie? Nous voyons dans le chapitre 3, verset 16, ce verset extrêmement précis et combien actuel. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Il y a un travail que Dieu poursuit dans notre âme, depuis notre nouvelle naissance jusqu'à ce que nous quittions cette terre et qui correspond aux multiples effets bienfaisants, positifs de toute l'Écriture. Nous devrions être des lecteurs attentifs et pieux de toute la parole. C'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est écrite, que par la grâce de Dieu, nous avons entre nos mains et qui n'a pas été altérée depuis que de saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par l'Esprit Saint. Et Dieu a pris soin de nous transmettre la parole écrite comme nous l'avons entre nos mains. C'est un privilège inouï parce que par son moyen, nous pouvons revenir à ce qui est dès le commencement, à la vérité permanente de Dieu qui n'a pas changé, même si nous, nous changeons et nous accusons toutes sortes de variations, nous le savons bien, quant à notre état moral et spirituel. Mais la parole a cet effet béni de tout corriger dans notre âme, de nous attacher au Seigneur, à celui qui est notre Sauveur et qui s'est acquis tous les droits sur nos cœurs. Alors elle nous nourrit, elle nous console, elle nous exhorte, elle nous enseigne, elle est comme un marteau pour briser notre propre volonté, pour consumer des liens qui nous attacheraient à ce monde. Elle a des effets combien précieux, elle est aussi un miroir par lequel, sans aucune déformation, Dieu peut nous révéler ce qu'il en est de notre état moral et spirituel actuel. C'est pourquoi la lecture de la parole est d'un prix inestimable pour l'âme de tout racheter. Et ce qu'a fait l'ennemi, dès que les apôtres ont quitté la scène, nous pouvons le constater très souvent, très vite, après leur départ, la Bible a été fermée. Elle n'a pas été lue au sein du peuple de Dieu. Et alors, les hommes étaient livrés à l'enseignement du clergé qui ajoutait à la parole écrite les traditions des hommes, la liturgie des hommes, les pensées des hommes. Et très souvent, comme le Seigneur le rappelle dans les évangiles à propos des pharisiens, eh bien, par leur tradition, ils annulaient la loi de Dieu. Mais béni soit Dieu, nous sommes les descendants d'un puissant réveil qui a soufflé par le Saint-Esprit au siècle dernier. Et ce à quoi nous assistons à ce moment-là, c'est un retour aux Écritures. Un retour combien puissant pour sonder toute la parole. Et il y a eu des hommes et des femmes qui, enseignés par le Saint-Esprit, jouissant du salut par grâce, sont entrés dans les vérités que la parole enseigne, soit pour la marche individuelle, vérité en particulier de l'affranchissement en Christ, de cette libération que nous obtenons par la foi en ce fait glorieux que le « moi » a été crucifié à la croix de Jésus, selon cette expression de Paul, « Je suis crucifié avec Christ, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. » Et ils ont retrouvé aussi les vérités relatives à la vie collective du peuple de Dieu, comprenant ce qu'est l'assemblée sous deux aspects. L'assemblée vue du côté de Dieu, et c'est le Seigneur qui bâtit, et cette pensée est très encourageante. Il n'ajoute à l'édifice, et il bâtit sur le roc qu'il est lui-même. Il n'ajoute que des pierres vivantes jusqu'à ce que la dernière pierre du fait soit ajoutée et que l'édifice soit au complet. Cette assemblée vue du côté de Dieu est aussi présentée comme le corps de Christ, nous le voyons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, mais aussi dans les Éphésiens, au chapitre 14, le cercle des vivants est rappelé par cette triple expression qu'il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi une seule espérance de votre appel. Voilà le cercle des vivants. Et ce corps de Christ, il se compose de tous les croyants, où qu'ils soient, dans la chrétienté où nous nous trouvons. Le Seigneur les connaît bien selon l'expression que nous avons lue au verset Et cela est tout à fait encourageant aussi de penser que le Seigneur, à son retour, enlèvera tous ceux qui font partie de son corps. Et il en est la tête glorifiée dans le ciel. Une autre image que l'apôtre emploie dans les Éphésiens, c'est que l'assemblée est l'épouse de Christ, une des relations les plus intimes qu'il propose comme modèle pour le couple chrétien. Et quand nous contemplons le modèle de Christ et de l'assemblée, eh bien, si un couple chrétien s'imprègne de la pensée de Dieu concernant son fils bien-aimé et cette épouse qui lui est destinée pour partager sa gloire pendant l'éternité, eh bien, nous pouvons penser que ce couple peut être utile au sein de l'assemblée, parce que chacun jouit du privilège qui lui est accordé et en même temps répond à la pensée du Seigneur sur le plan de sa responsabilité. Le mari aime sa femme comme Christ nourrit et chérit son Église. La femme est soumise à son mari comme l'assemblée est soumise à Christ. Et il y a là, pour notre méditation, un sujet des plus précieux. Et puis, l'assemblée vue du côté de l'homme. Alors c'est l'homme qui est considéré comme un bâtisseur. 1 Corinthiens 3 développe ce thème. Très important aussi. Et sous cet angle, eh bien, l'homme, outre des matériaux nobles comme l'or, l'argent et les pierres précieuses, tout ce qui peut supporter l'épreuve du feu, tout ce qui est noble et de prix, de valeur aux yeux de Dieu, tout cela a son approbation quand c'est l'homme qui construit avec de tels matériaux, mais l'homme a aussi ajouté, comme nous le savons, du bois, du foin, du chaume. Le foin peut occuper un imposant volume, mais il ne peut pas supporter l'épreuve du feu. Et comme quelqu'un le disait, des pierres précieuses peuvent tenir dans le creux d'une main, certainement. Mais voilà, ce qui est de Dieu subsiste. Ce qui est de Dieu demeure. Et tout cet enseignement nous est donné pour que nous prenions conscience de nos responsabilités. Et ainsi sont admis au sein de l'Assemblée de Dieu des éléments qui ont la vie, qui possèdent le Saint-Esprit. Voilà les matériaux nobles selon la pensée de Dieu. Ils sont revêtus de la justice divine, ils sont venus là, dans la maison de Dieu pour proclamer sa gloire sur la base de la rédemption et ils seront appelés dans cette sphère privilégiée à refléter comme des pierres précieuses les différentes gloires morales du Seigneur Jésus. Et combien le Seigneur est récréé lorsqu'il voit dans les siens et Dieu lui-même quelques reflets des gloires variées du Seigneur Jésus. En un sens, il faut tout le peuple de Dieu pour refléter ces gloires de la personne adorable du Seigneur Jésus qui est en lui-même amour, grandeur et beauté. Tout est là, précieux au cœur du Seigneur quand nous avons affaire à ce qui est de lui. Alors, nous voyons que Timothée n'est pas laissé sans ressources. Il y a bien sûr cette vie qui est communiquée lors de la nouvelle naissance et animée de la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons traverser les temps difficiles actuels avec le secours qui vient de Dieu. L'apôtre, dans le chapitre 1er, déclare à Timothée « N'aie pas honte du témoignage du Seigneur Jésus ». Ce verbe « avoir honte » se retrouve plusieurs fois dans ce premier chapitre, parce que ce sont des temps de ruine. Mais quant à ce qui concerne le témoignage du Seigneur, c'est-à-dire la proclamation de ce que Jésus est et ce qu'il a fait, cela n'est pas touché par la ruine. Et nous pouvons, malgré les temps difficiles auxquels nous sommes parvenus, toujours proclamer, bien sûr, dans un état moral et spirituel qui honore le Seigneur, ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Ceci est toujours vrai. Et alors, l'apôtre vient encourager son enfant dans la foi, Timothée. en lui disant « Toi donc, mon enfant ». Nous voyons par ces exhortations individuelles que plus les temps de la fin sont là, plus la fidélité devient individuelle. C'est chacun qui prend conscience de sa propre responsabilité devant Dieu, qui se rend compte qu'il aura affaire à Dieu un jour pour rendre compte en quelque sorte de son administration au cours de son pèlerinage terrestre. Et chacun aura à rendre compte à Dieu, au Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons nous pénétrer de cette grâce qui est dans le Christ Jésus. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas tenir ferme. Et ici, il est dit, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Elle est en lui. Elle ne peut pas être détachée de lui. Chacun de nous en a besoin. C'est cet amour de Dieu qui s'exerce constamment à l'égard d'êtres qui étaient coupables et qui, après avoir été délivrés de leur culpabilité devant Dieu, jouissant d'un pardon total à cause de l'efficace du sang de Christ, restent en eux-mêmes des êtres indignes et qui ont toujours besoin du côté de Dieu, de cet amour qui se déploie à leur égard à cause de leur indignité. Un cher serviteur disait à la fin de sa vie, chargé d'expérience chrétienne, « Plus je vais, plus je me rends compte quelle vile créature je suis. » Et c'était un homme de Dieu, un homme qui vivait, qui marchait par l'esprit. Eh bien, voilà ce qu'il en est de l'homme en Adam. C'est cet état misérable qui caractérise tout homme en Adam. Eh bien, pour de tels, il y a toute la grâce de Dieu qui va nous fortifier, qui va nous tenir debout, et cela en regardant au Seigneur, et non pas à la ruine, tout en étant conscient qu'elle existe. Et puis, une autre pensée qui apparaît, c'est que l'apôtre sait que son départ est sur le point de se produire. Il va quitter cette terre. Il va laisser son cher enfant tout seul, son enfant dans la foi. Il y a pour Timothée, de la part de Paul, des accents des plus touchants, comme un père parle à son fils, pour ainsi dire, mais un père spirituel et un fils qui était digne d'un tel père, on peut le dire, parce qu'il y a tout le cœur de Paul qui s'ouvre, mais le cœur de Timothée est avide de recevoir les dernières paroles de celui que, comme serviteur de Dieu, il a aimé. Verset 19. Or, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin que moi aussi j'aie bon courage quand j'aurai connu l'état de vos affaires. Car je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne, parce que tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. Une sincère sollicitude pour les saints. Un même sentiment avec les ouvriers, les serviteurs du Seigneur. Eh bien, cela est produit par l'amour pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui va neutraliser cet amour? C'est l'égoïsme, comme nous le voyons, le fait de rechercher nos propres intérêts, de penser à nos aises, dans nos maisons, comme on le voit dans le prophète Agé, et d'oublier la maison de Dieu qui est dévastée. Car ce que produit la vue des ruines dans la chrétienté, dans le témoignage sous l'angle de sa responsabilité, c'est un profond serrement de cœur. Nous ne pouvons pas être indifférents si nous sommes instruits dans toutes les Écritures devant ce qui s'offre au regard de la foi dans la chrétienté où nous sommes. C'est la propre volonté de l'homme, c'est la recherche des intérêts égoïstes de son cœur naturel, la satisfaction des convoitises de toutes sortes que recherchent même des chrétiens qui ont en vue leurs propres intérêts. Car le moi est toujours caractérisé par ces trois piliers, l'orgueil, la propre volonté et l'égoïsme. Eh bien, voilà le service qu'accomplissait Timothée. Et cela est divinement inspiré dans les Écritures, ce que l'Esprit de Dieu souligne concernant ce jeune homme qui servait avec Paul est tout à fait digne d'être retenu dans nos cœurs. À savoir qu'il s'agit de servir avec un cœur non partagé, un cœur dans lequel Jésus demeure. Et nous savons combien cela ne va pas sans exercice continuellement renouvelé. Car le Seigneur dit toujours aux siens, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Il ne dit pas « Donne-moi ton intelligence, ta mémoire, quoique ce soit des facultés qui puissent être sanctifiées et mises au service du Seigneur, mais toujours à titre de servante et jamais de maître. » C'est le Seigneur qui est le maître. Et tout se joue dans le cœur du racheté. Toutes les décisions sont prises à ce niveau-là. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas à travers des raisonnements que nous pourrons suivre le Seigneur. C'est un cœur engagé, une conscience délicate qui nous conduiront toujours à nous engager à la suite d'un tel maître. Et alors, bien, nous voyons que le souci de l'apôtre, c'est de pouvoir transmettre la vérité de Dieu de génération en génération. Et ceux qui blanchissent parmi le peuple de Dieu, c'est ceux qui ont reçu un ministère, devraient être soucieux de transmettre la vérité à la jeune génération et de la conduire vers ce qui est nourrissant pour l'âme. Nous pouvons parler de ces écrits, de ce bon dépôt qui nous a été confié. On peut dire que nos devanciers n'ont rien laissé derrière eux, si ce ne sont leurs dons écrits. Et nous pouvons confronter ces dons à la lumière des Écritures, et nous découvrirons quels flots de lumière sont jetés sur la parole de Dieu pour que nous en jouissions, que nous la comprenions toujours avec le secours du Saint-Esprit. Quelqu'un disait, je n'aurais jamais tant aimé la parole si je n'avais pas eu les écrits de ceux qui nous ont précédés dans le témoignage du Seigneur. Ne faisons pas fi de ces dons écrits qui sont à la portée de chacun des frères et des sœurs. Et n'essayons pas de penser que la parole suffit. Sans doute, la parole doit être celle qui gouverne le cœur. C'est la parole vivante de Dieu. Mais puisons dans les enseignements de ceux qui ont pris le soin et un soin pieux de nous expliquer les Écritures et de nous faire entrer dans ses profondeurs et dans ses beautés par le moyen du Saint-Esprit, qui illumine toute chose, qui éclaire notre esprit et notre cœur pour que la vérité les pénètre. Alors, les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, rappelons en passant que à ce moment-là, il n'y avait pas tous les écrits du Nouveau Testament et qu'il y avait une transmission orale de la part des apôtres que recevaient ceux qui n'étaient pas inspirés quand ils transmettaient cet enseignement. C'est pourquoi l'apôtre donne là une injonction des plus importantes, comme il est à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Ceci est très important, que nous recevions l'enseignement des Écritures à l'aide, c'est une aide pour l'étude de la parole, des écrits qui sont à notre disposition. Et nous voyons que l'apôtre va employer trois exemples pour Timothée, car il s'agit, dans ce temps difficile, de combattre, d'être un vrai soldat de Jésus-Christ. D'autre part, il y a une des exercices qui incombent aux disciples du Seigneur, à celui qui est employé par lui comme dans une arène où il s'agit de remporter des prix. Et enfin, l'exemple du laboureur qui travaille pour jouir des fruits. Le soldat de Jésus-Christ, un bon soldat de Jésus-Christ, prend ta part des souffrances. L'apôtre ne cache pas à Timothée que les souffrances seront sa part. Et dans un chemin de fidélité, nul homme qui va à la guerre, et nous sommes sur un terrain ennemi en étant dans ce monde, ne s'embarrasse dans les affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qu'il a enrôlé pour la guerre, plaire à notre chef et combattre à sa suite. Il y a là un lien intime entre celui qui donne les ordres, qui est le Seigneur, et le soldat, le bon soldat de Jésus-Christ. Il a d'abord toutes les armes qui nous sont présentées, plus particulièrement dans le chapitre 6 des Éphésiens, et il se renonce à lui-même, et ce qui le caractérise, c'est le dévouement que nous avons toujours à cultiver. C'est la preuve de notre amour pour le Seigneur lorsque nous aimons les saints, son peuple, et lorsque nous aimons toutes les âmes qui sont placées autour de nous et qui sont encore perdues. Eh bien, plaire à celui qui nous a enrôlés pour la guerre nous permet non seulement de remporter des victoires, mais de nous maintenir sur les positions acquises par ceux qui nous ont précédés. Et quelqu'un disait, il est plus difficile de maintenir une position acquise que d'en acquérir de nouvelles. L'ennemi est là et il s'agit de défendre avec l'énergie de la foi ce qui nous a été confié. Et seul le Saint-Esprit agissant avec puissance en nous peut nous permettre de conserver de telles positions. Alors ensuite, il y a l'obéissance. Et il est ajouté, si quelqu'un combat dans la lice, ce sont les combats est donnée à travers les combats qui se livraient dans les arènes pour remporter des prix. Eh bien, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Voilà, il y a des lois dans la course que nous effectuons, dans les combats que nous pouvons livrer. Et donc, nous avons pour nous toute l'Écriture, et rien que l'Écriture, pour remporter ces victoires, en obéissant à la parole de Dieu, en étant soumis à son autorité. Et enfin, le laboureur qui travaille. Nous prenons de la peine, travailler pour le Seigneur, chacun à la place qui lui est assignée dans le corps, chacun fonctionnant sous l'impulsion de la tête glorifiée. Il y a une dépense d'énergie sous l'action de l'Esprit qui est tout à fait selon Dieu. Et les fruits seront recueillis. Et si nous travaillons dans l'obéissance à la parole, dans la soumission à la volonté de Dieu, il y aura des fruits. Cette jouissance de notre âme en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur peut dire, mon Père est glorifié en Jean 15, en ce que vous portiez beaucoup de fruits. Plus de fruits, beaucoup de fruits. Voilà ce qui glorifie le Père. Et le fruit, qu'est-ce que c'est, si ce n'est tout mouvement de la vie divine dans le croyant, tout ce qui est produit par le Saint-Esprit en chacune de nos vies. Combien il importe que nous restions en communion avec le Seigneur. Et alors, en observant ce que l'apôtre disait à Timothée, eh bien, il pourrait recevoir du Seigneur de l'intelligence, du discernement en toutes choses. Les temps sont difficiles. Quelquefois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander au Seigneur et comme il faut le demander. Eh bien, Romains 8 nous indique que nous avons l'Esprit en nous qui nous est en aide. Le croyant a un intercesseur sur la terre, l'Esprit qu'il habite. Les soupirs inexprimables de l'Esprit sont entendus de Dieu et il y est répondu. parce qu'il intercède pour les saints selon Dieu. D'autre part, nous avons notre intercesseur à la droite de Dieu, le Seigneur Jésus, qui nous porte sur ses épaules toutes puissantes, qui nous sert sur son cœur plein d'amour, comme notre grand souverain sacrificateur. Et ainsi l'intelligence nous est donnée pour aller un pas après l'autre et faire la volonté du Seigneur. Ensuite, l'apôtre donne une autre injonction, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David. Nous sommes toujours reportés à la personne du Seigneur. Nous souvenir de lui, de ce qu'il a été sur la terre, de ce qu'il a fait. Son œuvre a été couronnée par sa résurrection d'entre les morts. Et la résurrection du Seigneur est un déploiement de la puissance de Dieu. Il a été ressuscité par la gloire du Père, il a été vivifié par l'Esprit, nous dit Pierre, et il a relevé le temple de son corps en ressuscitant par sa propre puissance. Donc, la résurrection du Christ est attribuée aux trois personnes de la Déité. Eh bien, nous avons là une preuve irréfutable de la puissance de Dieu. Et c'est ainsi que nous nous souvenons de Jésus-Christ qui détient la puissance de la résurrection et il est le ressuscité d'entre les morts. Autrement dit, nous avons là la pleine approbation de Dieu sur son œuvre. Et il est ajouté de la semence de David. La semence de David. Le Seigneur est présenté comme la semence et la postérité de David. La semence est le vrai Isaac, l'objet de toutes les promesses de Dieu. La postérité, c'est le Salomon. Le vrai Salomon qui va établir sur la terre son règne de justice et de paix et d'une sagesse qui ne sera jamais altérée lorsqu'il remettra le royaume à Dieu qui sera alors tout en tous. Et selon mon évangile dans lequel j'endure des souffrances, jusqu'à être lié de chaînes comme un malfaiteur. Toutefois, la parole de Dieu n'est pas liée. Combien ces pensées sont dignes de l'enseignement de Paul. Il rencontrait en présentant l'évangile complet qu'il prêchait la souffrance liée à ce témoignage. Eh bien, pour lui, la parole de Dieu n'était pas liée. Et c'est ce qui importe. Et aujourd'hui, elle traverse toutes les frontières par la grâce de Dieu. Mais puissions-nous accompagner de nos prières ce message de l'évangile complet que Dieu annonce encore à toute créature humaine sur la terre. Et alors il endurait tout pour l'amour du salut. Voilà le vrai serviteur, prêt à souffrir pour que la fidélité soit respectée dans sa vie. Voilà le caractère d'un homme fidèle à la vérité qu'il proclamait et ce qui entraînait toutes sortes de souffrances. Et alors, pour lui, ce qui importait, c'est d'obtenir le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Et alors apparaît cette certitude souvent rappelée dans les épîtres à Timothée, c'est-à-dire, cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, tout avec lui. Mort avec lui, notre identification avec la mort de Christ, portant toujours partout la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Dans notre corps, c'est l'application de ce que Dieu nous dit d'une manière pratique en chacune de nos vies. La réalisation de notre crucifixion avec Christ pour que la vie de Jésus s'épanouisse en chacune de nos vies. Et alors, bien sûr, le règne pour tous ceux qui auront accepté de souffrir pendant le temps où le Seigneur est rejeté. Et alors, pour tous ceux qui le renient, pour tous ceux qui sont incrédules, cela n'empêche pas le Seigneur d'être fidèle, de demeurer fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Lui demeure. Il n'y aurait plus de témoin sur la terre. Il en resterait encore un, le témoin fidèle et véritable, Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Et alors remet ces choses en mémoire. Que de fois l'apôtre donne un avertissement quant à tout ce qui représente des discours vains et profanes, tout ce qui est le langage des faux docteurs, et combien ils pullulent aujourd'hui les faux docteurs dans la chrétienté. Eh bien, il se peut que certains serviteurs, pendant un temps, marchent dans le sentier étroit, dans le chemin de la vérité, et puis un jour, il y a un écart. Ils se sont écartés de la vérité. Voilà ce qui est dit à propos d'Hyménée et de Philète, écartés de la vérité. Quelle déviation que celle-là. C'est-à-dire qu'ils ont été entraînés par l'erreur des pervers. Et puis, alors apparaît ce solide fondement de Dieu qui demeure. Et c'est à cela que nous pouvons nous accrocher, au solide fondement de Dieu, qui est représenté par ce sceau à la double face. D'un côté, le côté de Dieu, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, ils seront tous enlevés à la venue du Seigneur et pour être auprès de lui dans le ciel. Et d'autre part, l'injonction qui concerne notre responsabilité et qui est toujours vraie aujourd'hui, qui se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Combien cela est important pour la vie du peuple de Dieu, se retirer de toute iniquité. L'iniquité, au fond, c'est s'écarter de la vérité. C'est l'iniquité morale, et tout mal doctrinal. Et nous devrions avoir une vigilance égale pour ces deux mots, pour nous en séparer avec l'énergie du Saint-Esprit. Et alors, la maison de Dieu, ici, est devenue la grande maison. Dans cette grande maison, il y a des vases d'or et d'argent, des vases qui sont constitués de matériaux nobles, et puis il y a des vases de bois et de terre, les uns à honneur, les autres à déshonneur. Voilà la vérité de Dieu que nous ne pouvons pas discuter, sur laquelle nous ne pouvons pas raisonner. L'injonction divine, c'est de se purifier de ces vases à déshonneur. Se retirer de l'iniquité, se purifier des vases à déshonneur, et alors, eh bien, celui qui agit ainsi, remarquons que l'injonction est individuelle, et il va être un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Et il y a là une bénédiction pour celui qui réalise ce qui paraît négatif, se retirer de l'iniquité et fuit les vases à déshonneur. Il y a une bénédiction du plus haut prix. Il va être le vase à honneur pour le maître, mis à part pour lui, préparé pour toute bonne œuvre. Et les bonnes œuvres sont faites par amour pour le Seigneur, fruit de la séparation et de l'amour pour lui. Et alors, nous voyons que toute bonne œuvre est préparée pour nous. Nous n'avons même pas à choisir. Il suffit de se laisser conduire par le Saint-Esprit et nous verrons que Dieu prépare toutes choses et nous donne la force d'accomplir ce qui lui est agréable. Et puis, ceux qui agissent ainsi, qui sont obéissants à cette injonction, vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls. Et il y en a qui, comme eux, eh bien, fuyant les convoitises de la jeunesse, poursuivent la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui a pour seul motif la gloire de Christ, qui est engagé pour lui, envers et contre tout, et qui se soumet à l'autorité des Écritures sans discuter. Eh bien, le premier caractère, c'est la justice, ce n'est pas l'amour. Justice pratique, c'est-à-dire l'absence de péché dans toutes nos voies et rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est peut-être le point le plus faible dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Combien nous avons besoin d'être exercés pour réaliser cette justice pratique qui fait que nous pouvons nous retrouver ensemble autour du Seigneur. Mais il faut y ajouter, bien sûr, la foi, l'amour, la paix. Nous avons tout quand nous avons le Seigneur. C'est lui qui anime notre foi par l'énergie du Saint-Esprit pour que nous saisissions la vérité de Dieu et que nous la mettions en pratique. et puis cet amour qui est le vrai moteur de toute la vie chrétienne. Rien ne peut être profitable dans notre vie sans l'exercice de l'amour vrai, sans hypocrisie à l'égard de tous les saints. Et enfin, eh bien la paix, nous avons la paix, absence de conflit, Dieu est là. Dieu est là et nous fait jouir de toutes les ressources de sa grâce. Combien ils sont heureux, ceux qui ont réalisé ce rassemblement autour du Seigneur. Et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste. Il y a des opposants. L'apôtre dicte l'attitude que nous devons avoir, toujours prêt à répondre, mais avec douceur. Avec la crainte de Dieu. Il est dit qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner. Combien cette parole est importante, propre à enseigner dans nos contacts avec les saints, avec les âmes, apporter quelque chose qui vient de l'Écriture. Citer l'Écriture, ce qui signifie la connaître dans le cœur. Et au moment voulu, Dieu donne par son esprit ce qui va faire du bien à l'âme avec laquelle nous sommes en contact, ayant du support. Le support mutuel est aussi une vertu chrétienne parfois difficile à réaliser parce que la chair qui s'exprime dans notre frère ou dans notre sœur a tendance à exciter la nôtre. Et nous devrions répondre à la chair par la puissance du Saint-Esprit qui pourrait nous dicter la parole qui manifeste le vrai support à l'égard des âmes que le Seigneur aiment toujours, même si elles sont affaiblies moralement et spirituellement. La douceur, enseignant avec douceur, les opposants attendant si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour recevoir la vérité. Combien elle est belle cette attitude. Ce n'est pas le serviteur, ce n'est pas celui qui travaille pour le maître qui va faire changer de disposition un cœur opposant, un cœur rebelle. C'est toujours le travail de Dieu. Eh bien, nous attendons dans la prière, dans la soumission à la parole de Dieu, en étant des modèles du troupeau, des exemples de piété, que Dieu tourne ses cœurs vers le Seigneur. Et ainsi, le merveilleux travail de sa grâce se poursuit. Dieu peut briser une volonté propre et amener une âme repentante aux pieds du Seigneur. C'est le merveilleux travail de la grâce de Dieu en restauration. Et nous pouvons toujours espérer que Dieu peut-être pourra l'accomplir. Que Dieu nous aide dans ce service qu'il confie à chacun. Il s'agit d'être près du Seigneur, d'être fortifié dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, de combattre ce bon combat de la foi comme de bons soldats de Jésus-Christ, de courir dans l'arène pour remporter le prix en étant soumis aux lois, c'est-à-dire en étant obéissant à la parole, et de travailler en attendant de recueillir les fruits. De toute manière, eh bien, il y aura des couronnes, il y aura des récompenses pour tous ceux qui auront travaillé. La couronne n'est pas un but pour le travail du croyant, mais elle est un gage de l'approbation du Seigneur, de ce que le Seigneur désire décerner à ceux qui ont vaincu. Il s'agit de vaincre. Les temps sont difficiles, les ennemis sont très actifs. Eh bien, il y aura un jour des récompenses, et le Maître s'approchera de chacun de ses esclaves, puisque nous aurons des comptes à lui rendre, et pour tous ceux qui auront été fidèles par rapport à ce que la grâce leur aura confié, il y aura cette parole du Maître, bien bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Voilà la récompense suprême, la satisfaction du Maître, la joie du Maître que nous partagerons pendant l'éternité.